OK, ça fait qu'on va continuer notre étude du survol des 66 livres de la Bible. Ce soir, on va faire l'Exode, la première partie. Et la semaine suivante, on en fera une autre partie. Alors, on l'avait expliqué dans les leçons précédentes, on fonctionne toujours en tenant compte de l'ordre qu'on avait établi dans les leçons précédentes. Donc, l'arrière-plan. Le but principal de chacun des livres, le plan, il y a un plan pour chacun des livres, les thèmes majeurs, les personnages clés, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et toujours dans chacune des leçons aussi, dans chacun des livres de la Bible, la place et la présence de Jésus-Christ. On suit toujours cet ordre-là. Alors ça aide à avoir une structure qui est uniforme à travers toute notre étude. La première chose qu'on regarde ce soir, c'est l'arrière-plan. Comme d'habitude, quand vous regardez, si jamais vous vous achetez des livres qui veulent vous donner l'auteur de chacun des livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, peu importe, le livre de l'Ancien Testament ou du Nouveau, il y a toujours quelqu'un qui va trouver, qui veut faire son original et qui va dire que c'est pas selon la tradition établie depuis des siècles et des siècles. Mais l'auteur du livre de l'Exode, la plupart des commentateurs qui sont conservateurs, je dirais, disent que c'est Moïse, parce que les Écritures elles-mêmes disent que c'est Moïse. La date, donc, Moïse aurait écrit le livre de l'Exode entre 1446 avant Jésus-Christ, quand on marque BC, c'est Before Christ. C'est traditionnel, ça. Peu importe, quand on étudie la Bible, on voit toujours ces affaires-là baisser. Donc, il faut tenir compte. 1446 avant Jésus-Christ et entre 1446 et 1406, donc, qui serait la date possible de sa mort. Le cadre. Les deux principaux cadres géographiques du livre de l'Exode sont l'Égypte et le désert. On le sait, le livre du début de l'Exode, c'est que il était en Égypte, le Seigneur les a sortis, mais on traversait le désert. C'est les deux principaux endroits du livre de l'Exode. Si on regarde le contenu du livre de l'Exode, le livre de l'Exode va parler de l'histoire de la rédemption du peuple d'Israël, de leur esclavage en Égypte, et de leur établissement comme une nation gouvernée par les termes de l'alliance de Dieu et de ses lois. Bien entendu, on sait que c'est dans le livre de l'Exode que Dieu donne à son peuple le Décalogue, donc le peuple d'Israël reçoit ces lois-là. Alors, durant une période d'approximativement 400 ans, la famille de Jacob connut une grande croissance. On sait que si on se souvient un petit peu de la fin de notre livre de Genèse, il était combien quand ils ont quitté? 70. Et là, on est rendu à 2 ou 3 millions de personnes. Ça veut dire que le peuple d'Israël a eu une croissance énorme et ils se sont beaucoup développés dans le pays d'Égypte. Alors, pour échapper à une grande famine, les enfants de Jacob s'étaient établis au nord de l'Égypte, au pays de Goshen, comme on se souvient quand on a étudié la Genèse. Et les Israélites ont vécu dans ce pays-là au temps de sa prospérité et de sa puissance politique. Cependant, avec le temps, ils sont devenus des esclaves et ont été traités durement par Pharaon. On sait que les premiers chapitres du livre de l'Exode, c'est vraiment que là, le Pharaon, il change d'idée. Là, il les voit plus comme des amis. Il les voit comme, il veut les exploiter. Et il était très durement. Alors, après que les Israélites ont quitté l'Égypte lors de l'événement de l'Exode, le mot Exode, tu veux dire sorti. Ils ont voyagé dans le désert vers le Sinaï. Le Sinaï, c'est la montagne où Dieu a donné le Décalogue. Ils ont été instruits par Dieu sur la manière d'adorer. Très important. Dans le livre de la Genèse, il y a trois grandes choses qui se passent. Il y a l'Exode, la sortie d'Égypte. Deuxièmement, il y a le don du Décalogue, la loi, Donc, il y a trois... l'Exode, il y a le Décalogue, et à partir du chapitre 25, Dieu dit à Moïse comment construire le tabernacle. Les premières fois qu'on lit le chapitre 25 aller jusqu'à 40, on voit une construction que Dieu veut qu'il fasse avec des tentes, avec des poteaux, avec des objets d'or, avec des peaux d'animaux pour couvrir tout ça. Et j'avoue que si on ne voit pas Christ là-dedans, du symbolisme de Christ là-dedans, on ne comprend pas grand-chose. Ça, je suis le premier à l'avouer, parce que quand j'ai lu ça pour la première fois, je dois dire que j'ai pas compris grand-chose. C'est avec le temps où on apprend que quand on fait un lien avec le Nouveau Testament, on apprend que le Seigneur est en train de parler de choses concernant son Fils, Jésus-Christ, sous forme symbolique. Juste un exemple. Quand Jésus est mort, ça dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Il y avait eu le tabernacle, qui était une tente. Après la tente, il y a eu un temple qui était à peu près la même chose, avec les mêmes objets dedans, avec un gros rideau. Apparemment, c'était un rideau de à peu près 2 pouces d'épais. Puis quand Jésus est mort, ça dit le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Alors, il faut absolument faire le lien entre ce qui est dit dans le Nouveau Testament concernant Jésus-Christ et tout le symbolisme qu'il y avait dans ça. C'est hyper symbolique, à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40 de l'Exode, le tabernacle. Moi, je l'ai étudié en profondeur, on l'a fait à 2 reprises, avec des diapositives qui ont été faites par... On les avait trouvées à Québec, je pense qu'il y avait 60 diapositives. Une bonne fois, on le fera ici. Parce que ça aide énormément à comprendre quand on voit. Parce qu'on lit, là, des fois, c'est difficile à comprendre quand il parle des planches, des peaux d'animaux qui faisaient une tente, puis ont toutes des dimensions bien particulières. Mais quand tu te mets à étudier ça, la lumière, du symbolisme qui représente Christ, ça prend toute une autre couleur. Et là, c'est vraiment très, très, très intéressant à étudier. Alors, lors de la sortie d'Égypte, Dieu avait établi souverainement son infinie supériorité sur les faux dieux d'Égypte. Parce qu'on se souvient que les plaies d'Égypte qu'on appelait, là, c'est toutes des références aux dieux d'Égypte. Donc, si Dieu a vaincu tous ces dieux-là, c'est parce que il venait lui-même dire qu'il était supérieur à ces dieux-là. Parce que on pourrait aller étudier ça en profondeur, mais le but d'une leçon comme ce soir, c'est pas d'aller en profondeur dans rien dans l'Exode. C'est juste de faire, ça le dit, c'est un survol. Alors, le but principal du livre, c'est, ça nous raconte comment Dieu a délivré son peuple de l'esclavage et comment il en fit une nation. Le livre de la Genèse traite principalement des commencements de toutes choses. Le livre de l'Exode met l'accent sur l'origine du peuple de Dieu. Moïse reçoit la loi, qu'on appelle le Décalogue, ou les 10 commandements, ou la loi morale, mais on parle tout de la même chose, là. C'est juste des noms différents qui sont donnés pour la même réalité, qui est beaucoup plus, dans le fond, qu'une simple série de règles de comportement. Parce que quelqu'un qui se met à étudier le concept de la loi morale des Écritures, il se rend compte que c'est dans toutes les Écritures, c'est d'une importance extrême. Alors, c'est pas juste pour le comportement du peuple d'Israël de l'époque. La preuve, c'est que ça dit dans Romains 3 que c'est par la connaissance de la loi qu'on vient à savoir c'est quoi le péché. C'est des choses importantes à connaître. Alors, les instructions divines ont façonné cette nation-là et l'auront montré dans le fond, ce que c'est que d'être le peuple de Dieu au milieu de d'autres nations. Alors, j'ai mis une petite carte que j'avais trouvée sur Internet où ce que vous lisez dans le livre de l'Exode, il y a des déplacements. Ils se déplacent d'un endroit à l'autre, ils passent par tel autre endroit, quand ils sont dans le désert. Ça, je vous laisse regarder ça chez vous, tranquillement. C'est en anglais, mais je pense que juste par les images, on peut arriver à savoir, comme par exemple, si on regarde l'exemple, à peu près au milieu, on voit Sukkot, on voit Moïse qui traverse, les eaux sont ouvertes, la traversée de la mer Rouge. Et par les autres images, on voit toutes sortes. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a pris tous les événements qu'il y avait dans le livre de l'Exode, les déplacements du peuple, avec tous les noms des villes, et qui explique un petit peu avec des images les déplacements du peuple d'Israël dans le livre de l'Exode. Si vous le regardez d'aplomb, puis d'attentivement, c'est très intéressant à étudier et ça aide aussi à comprendre un peu mieux toute la traversée du peuple. Alors ça le dit d'en haut, là, c'est d'Exode 12 à Josué 7, ça nous montre les déplacements du peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la terre promise. Alors ça, je vous laisse regarder ça chez vous. Ceux qui ont les notes à la page 4, vous avez le plan du livre. Ça, je dirais que c'est d'une importance capitale. Quand je vous ai dit, un des avantages d'étudier un livre dans son survol, c'est le plan. Moi, je dirais que c'est un des grands atouts. Parce que quand vous allez venir pour étudier, disons, vous vous dites du jour au lendemain, « Ben, moi, j'aimerais ça étudier le livre de l'Exode, pour mieux le comprendre. » Alors, si vous comprenez comment le livre est organisé, un plan, il y a des gens qui ont étudié ça en profondeur, ils ont pris le temps de réfléchir, ils ont divisé, ils ont fait des divisions dans le texte pour que ça soit plus facile à retenir. Si vous regardez ça, du chapitre 1 au chapitre 18, quand on regarde la première partie, là, c'est vraiment la sortie d'Égypte. À partir du chapitre 1, aller jusqu'au chapitre 18, vous allez voir ça, c'est la sortie d'Égypte. Alors, c'est divisé comme en trois parties. L'Exode projeté, par l'intermédiaire. Projeté, ça veut dire quoi? Tu avais l'idée de t'en aller, donc c'est un projet. L'idée projetée, à partir du chapitre 1 aller jusqu'au chapitre 4, c'est le projet de sortir d'Égypte. Alors, il y a toutes sortes d'événements qui arrivent. Dieu appelle Moïse, il y a le buisson ardent et toutes ces choses-là. Donc, c'est au niveau du projet. Il est en train de convaincre d'aller voir à Pharaon et de dire à Pharaon, « Laisse sortir mon peuple d'Égypte. » À partir du chapitre 5 aller jusqu'au chapitre 11, c'est l'Exode qu'on pourrait dire obstrué. Eux veulent sortir, puis Pharaon, il dit, vous sortirez pas. Alors, si vous regardez du chapitre 5 à 11, il y a 8 requêtes qui sont présentées pour sortir d'Égypte. Il y a 8 refus, et suite à ça, il y a les 10 plaies d'Égypte, une en arrière de l'autre. Après ça, il y a l'Exode effectué par Jéhovah lui-même, du chapitre 12 aller jusqu'au chapitre 18, vous avez vraiment l'Exode, la sortie d'Égypte, avec toute de Gozan à la mer Rouge, à travers la mer Rouge, de la mer Rouge au Sinaï. Quand vous arrivez au chapitre 19, on arrive à la section d'Exode où on se prépare à recevoir la loi. Donc, quand je vous ai dit, là, il y avait trois choses importantes dans le livre de l'Exode, t'as la sortie d'Égypte, t'as le dépôt de la loi par Dieu lui-même, suivi des instructions qu'il donne à Moïse pour construire le tabernacle. Donc, la deuxième partie, partie 2, à la page 5, ceux qui ont les notes, et ceux qui m'écoutent et qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire, ben vous avez juste à télécharger les documents, vous allez pouvoir tout voir ça sur vos notes. Alors, la partie 2, c'est la loi, et ça va du chapitre 19 jusqu'au chapitre 24. Il y a toutes sortes de lois là-dedans. Il y a la loi morale qui est dans Exode 20. Ensuite, il y a d'autres sortes de lois que Dieu donne à son peuple aussi pour avoir de l'ordre au point de vue civil et politique à l'intérieur de leur sortie. Alors là, je vous ai tout donné les 10 commandements. Ensuite, chapitre 19 et 20. Ensuite, vous avez les jugements gouvernant la vie sociale. Autrement dit, Dieu donnait pas juste la loi morale, il leur donnait des outils pour savoir comment se comporter en société. Tous les problèmes qui peuvent arriver dans une société. Et ensuite, il y avait des ordonnances dans le chapitre 24. C'était surtout des choses de nature religieuse. Quand vous regardez le chapitre 21 à 23, c'est des affaires qui tournent autour de la vie sociale du peuple d'Israël. Tandis que dans le chapitre 24, c'est plus des affaires concernant la vie religieuse. À ce temps, vous arrivez dans la troisième partie. Là, c'est Exode 25 à 40. Moi, pourquoi je l'ai étudié? Parce que je trouvais ça intéressant. Et quand j'ai étudié plus en profondeur Hébreu, quand vous étudiez le livre d'Hébreu, puis que vous avez bien étudié le chapitre 25 à 40 du livre de l'Exode, là, ça devient lumineux. Lumineux, c'est le cas de le dire. Et là, ça prend, c'est tellement beau que... Mais c'est important de l'étudier. Alors, la troisième partie, c'est vraiment le tabernacle, du chapitre 25, aller jusqu'au chapitre 40. Là, vous vous souvenez que c'est Dieu lui-même qui dit à Moïse comment il veut que le tabernacle soit construit, mais non seulement il lui dit comment il faut que soit construit, mais dans les détails. Tu vas faire un chandelier à cette branche, tu vas être en or, il va y avoir des fleurs, et tout ça, c'est tout symbolique par rapport à Jésus-Christ. Les tables de paix de proposition, le chandelier de parfum devant le voile, et le tabernacle qui est divisé avec tous les outils. Qu'est-ce qu'il y avait avant de rentrer? Après ça, tu avais la partie, le saint. Après ça, tu avais le saint des saints dans lequel tu avais le coffre de l'Alliance. Mais le coffre de l'Alliance, c'est d'une symbolique, ça représente Jésus-Christ. Et quand on va étudier ça, vous allez trouver ça, c'est pourquoi Dieu demande à Moïse de construire selon ses plans. C'est parce que toutes ces choses-là représentent Jésus-Christ, sous un aspect ou sous une facette ou sous une autre. Alors ça devient extrêmement intéressant d'étudier le tabernacle, alors que la première fois que tu lis ça, moi, je te l'avoue, je n'ai rien compris. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai lu Exode 25 à 40, puis là, je voyais qu'il décrivait une tente avec toutes sortes de bebelles, où j'appelais ça des bebelles dans le temps, puis aujourd'hui, là, c'est des outils sacrés, des choses sacrées. Mais si on n'a pas une certaine préparation, puis que personne ne nous explique l'aspect symbolique de Jésus-Christ, j'avoue que ça nous passe six pieds par-dessus la tête. Puis j'avoue que la plupart des gens aujourd'hui, même les chrétiens, ont peu de connaissances sur ces choses-là parce qu'ils n'ont pas d'explication. Puis il n'y a rien comme le visuel pour nous faire voir ces choses. Je vous les montrerai une bonne fois. On aura, un samedi matin, là. Je vous montrerai tout ça sur écran. Et là, quand tu le relis, puis que tu l'as vu sur écran, c'est plus pareil pour toi. Ça devient très intelligent. Alors, vous avez le tabernacle qui est conçu, du chapitre 25 à 31. Là, Dieu leur dit comment faire l'arche, comment faire les rideaux, comment faire l'autel d'airain, comment faire les vêtements du sacrificateur, l'autel des parfums, la cuve d'airain, l'huile pour l'onction, les artisans, et il leur donne le signe du sabbat. Ensuite, vous avez le tabernacle à plus tard, du chapitre 32 à 34, et vous avez le tabernacle qui est complété. Tout ça, c'est extrêmement intéressant, je vous le dis. Très, très, très intéressant. Alors, le livre de l'Exode, c'est pas un livre plat, c'est un livre extrêmement intéressant si vous prenez le temps d'étudier. Ici, ça vous donne un survol, mais si vous voulez aller plus en profondeur, par exemple, Arthur Pink. Moi, j'aime bien Arthur Pink. Arthur Pink, il a écrit un livre sur la Genèse. Il va expliquer la Genèse, mais il a écrit un aussi sur l'Exode. Ben, quand j'ai fait l'Exode, je me suis servi d'Arthur Pink pour expliquer tous ces symboles-là. Puis Pink, c'est un maître d'explication. Alors, quand tu lis Exode, puis tu lis Pink en même temps, ben là, ça devient que Exode, tu le trouves hyper intéressant. Alors, quand tu regardes ça, les thèmes, maintenant, on a fini le plan très rapidement, là, on l'a survolé sur le plan. Mais quand vous voulez faire une étude, si vous vous servez du plan, vous allez mieux comprendre et beaucoup plus rapidement. de tout ce qui se passe dans le livre, puis pourquoi ça a été écrit, puis le but de tout ça. Les thèmes majeurs. Bien entendu, les thèmes majeurs ne sont pas très difficiles à comprendre. Quand on prend la page 7, Israël est en Égypte, Dieu libère son peuple, du chapitre 1 aller jusqu'au chapitre 15. Le thème, bien entendu, c'est Dieu qui est rédempteur et secoureur de son peuple. Dieu est le roi suprême parce qu'on voit tout ce qu'il fait subir à Pharaon et toutes les choses qui sont extraordinaires, qui produit la mer Rouge qui se trouve, toutes les 10 plaies d'Égypte, etc. Ensuite, vous avez Israël en chemin vers Sinaï. Donc, Dieu qui pourvoit à tous les besoins de son peuple dans leur chemin pour la sortie d'Égypte. Et l'autre partie, de 19 aller jusqu'à 40, c'est Israël au Sinaï. Dieu instruit et organise son peuple. Donc, les termes là-dedans, c'est Dieu est roi, Dieu est juste, Dieu est miséricordieux, Dieu est avec son peuple, Dieu veut se relier personnellement à son peuple. Alors, ces choses-là que je vous laisse, là, si vous étudiez le livre, là, servez-vous-en. Là, je vous l'ai dit rapidement, je suis certain que demain matin, vous en souviendrez pas. Mais quand vous venez pour étudier le livre, ou que vous êtes en train de le lire, avant de lire, disons, du chapitre 25 à 40, reprenez vos notes. Vous allez voir qu'à force d'étudier un livre, il vient un temps que la grande structure du livre de l'Exode, là, si je vous disais, d'un coup sec, tout ça, là, vous venez de l'entendre, c'est quoi les trois choses qui sont les plus importantes dans le livre de l'Exode? La sortie d'Égypte, le décalogue, le tabernacle. Déjà, vous savez, le livre de l'Exode, dans votre tête, vous avez la grande structure. Après ça, ben là, pour chacune des trois parties, si vous voulez bien les comprendre, ben il faut que vous alliez plus dans les détails. Mais au moins, quand on commence à comprendre un livre dans sa structure générale, ça nous aide beaucoup à comprendre. Maintenant, on est rendu au personnage clé. Bien entendu, on n'ira pas dans les détails pour les présenter ce soir, mais je vous ai laissé les feuilles pour vous donner une idée de qui étaient les personnages clés et quel était leur rôle dans le livre. Alors, t'as Moïse, on sait que Moïse était choisi par Dieu pour être le leader pour sortir son peuple d'Égypte. Pharaon, ben, Moïse, il bégayait. Fait qu'il a dit à Dieu, tu pourrais-tu en choisir un autre? Moi, je suis pas organisé pour aller parler. Fait que Dieu, il a dit, je vais te donner ton frère va parler pour toi. Alors, Pharaon est devenu le grand prêtre aussi. On sait qu'il est aussi le chef des souverains sacrificateurs. Et toute cette histoire de souverains sacrificateurs-là, ça nous revient dans le Nouveau Testament. On a besoin de comprendre ça. Après ça, bien entendu, comme personnage clé, on a Pharaon lui-même, le roi d'Égypte, qui ne voulait pas laisser sortir le peuple d'Israël. Et bien entendu, on a Marie, qui était la sœur de Moïse et d'Aaron. Elle était une prophétesse et elle a intercédé auprès de la fille de Pharaon, parce qu'on se souvient de tout ça. Là. Certains, quand on dit les versets clés comme des raisons, c'est des personnes qui ont étudié le livre de l'Exode, se sont rendu compte que certains passages qui sont peut-être un petit peu plus importants que d'autres pour situer, l'action dans son ensemble. Mais tous les versets sont importants. Mais il y a certains versets qui sont, je dirais, ça qu'ils appellent clé, parce que dans Exode 3:14, on a le fameux passage du buisson ardent. C'est clé. Alors, ça dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. On a aussi Exode 8, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et l'autre passage, qui est des passages clés aussi, c'est le fameux passage d'Exode 20. On ne le relira pas, mais vous le connaissez tous, on le relit souvent. C'est le passage des 10 commandements de Dieu. Dieu leur donne les commandements de Dieu. Et on a vu dimanche quel effet que ça produisait. Le peuple de Dieu, quand il entendait ça, il entendait les tonnerres, il voyait la fumée, il était dans la terreur, ils ont dit à Moïse, parle, on veut plus entendre la voix de Dieu, il était terrorisé. Alors, puis à partir du chapitre 25, pourquoi j'ai mis 25, verset 9? Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui parle. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Autrement dit, il ne pouvait pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Enfin, tout ce qu'il faisait avait du symbolisme et c'était important qu'il tienne compte des matériaux. Quand il disait que c'était de l'or, il fallait que ce soit en or. Quand il disait que c'était de l'argent, il fallait que ce soit en argent. Quand il disait que c'était en airain, il fallait que ce soit en airain. Puis tout ça, il y a des raisons. Puis quand vous les mettez en relation avec le Nouveau Testament, vous voyez l'intelligence de Dieu là-dedans. C'est de toute beauté, comme on dit. Puis quand on arrive à Exode 40, comme verset clé, ça dit « Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Autrement dit, quand Moïse a fait sa job comme Dieu lui a demandé de le faire, c'est là que la gloire de Dieu est apparue. Mais ça a un lien encore avec Jésus-Christ. C'est sûr qu'on n'est pas en train d'étudier le livre de l'Exode ce soir, là, mais... C'est pas pour rien qu'à la fin, dans le chapitre 40, quand tout a été fait selon le modèle de Dieu, qu'il y a un rapport avec Jésus-Christ, que là, la gloire de Dieu apparaît. C'est pas un hasard. Alors, les leçons pour le peuple de Dieu de l'époque, c'était que Dieu appelle son peuple et dit « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Maintenant, les leçons pour le peuple d'aujourd'hui, Jésus promet à ceux qui le suivent, quand il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et on a également la place et la présence de Jésus à l'intérieur du livre de l'Exode. Donc, le ministère de Moïse comme juge, comme sacrificateur et comme prophète anticipait le ministère de Jésus-Christ. On lit par exemple dans Hébreux chapitre 3, versets 1 à 6, « C'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » On est en train de parler du tabernacle. On est rendu dans le Nouveau Testament. Là. On parle encore du tabernacle. « Car il a été digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celle qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Donc, la célébration, quand on parle du repas du Seigneur, on fait ça à tous les mois, depuis des années et des années. Ben, il avait été fondé où le repas du Seigneur? La Pâque juive, quand le Seigneur il dit « J'ai hâte d'aller à Jérusalem pour la Pâque juive », c'est dans Exode 12, où Dieu disait « Fallait qu'il tue un agneau ». Fallait qu'il soit rôti, fallait qu'il mange dans les séjours sans du pain sans levain et toute cette histoire. C'est sûr qu'on peut pas rentrer dans les détails de tout ce soir là, mais c'est important de faire le lien que qu'est-ce qu'il y a dans l'Exode, ça vient jusque dans le Nouveau Testament. Christ, quand il est venu sur la terre, qui faisait le repas de la Pâque, il obéissait à quelque chose qui est commandé par Dieu dans Exode chapitre 12. Alors, plus on fait les liens de ces choses-là, plus on trouve la Bible intéressante. Deux applications. Le livre de l'Exode est d'une richesse inouïe. Lisons-le souvent. Étudions-le attentivement. Et méditons-le. Il nous apportera des innombrables bénédictions et nous apprendra beaucoup de choses sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Deuxième application, retenons les trois grandes parties du livre, l'Exode, la loi et le tabernacle. Elles contiennent d'importants enseignements sur notre salut. Louons notre grand et puissant libérateur. Amen.